Fréquence.
Recherche.
Reçoit le signal.
Des chercheurs.
L'émission qui questionne la place de la recherche dans notre société.
Un jeudi sur 4 à 20h.
Sur Radio Campus Paris.
Bonjour et bienvenue dans Fréquence Recherche, l'émission qui décrypte la recherche et la place des chercheurs et chercheuses dans notre société. Nous nous retrouvons un jeudi sur 4 en direct à la radio 93.9 FM ou plus tard sur le site de Radio Campus Paris et sur les plateformes. Parce que la recherche est au service de la société, Fréquence Recherche veut que son fonctionnement, ses enjeux et défis soient compris par tous et par toutes. Tout au long de l'année, nous entendrons chercheurs et chercheuses du monde académique français s'interroger avec vous sur les problématiques qui dictent le rythme de la recherche. Comment faire de la recherche? Comment l'organiser? Comment la financer? Comment la valoriser? Finalement, comment les problématiques de la recherche résonnent-elles avec celles de la société? Bienvenue donc au cœur du système recherche, au micro des chercheurs et chercheuses qui questionnent leur profession et la place qui leur est donnée. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous sommes ravis d'ouvrir un volet qui nous passionne, recherche et médecine. Nous allons nous plonger dans le monde de la recherche médicale et comprendre le lien intime qui unit cette recherche aux soins. En cette occasion, j'ai le grand plaisir de recevoir le professeur François Oliven. Professeur Oliven, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur, gynécologue obstétricien, titulaire d'un doctorat en biologie de la reproduction. Avec lui, nous recevons le docteur Julien Vibert. Docteur Vibert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin-chercheur oncologue, chef de clinique assistant à l'hôpital Gustave Roussy à Villejuif, titulaire d'une thèse de doctorat en bioinformatique. Nous sommes ravis donc de vous accueillir à ce micro aujourd'hui pour parler de ce sujet que vous connaissez bien, puisque vous avez tous deux la double casquette, médecin et chercheur. Aussi, pour ouvrir cet épisode, j'aimerais vous inviter à vous présenter, rapidement nous y reviendrons, et à nous expliquer vos activités donc, en lien avec cette double casquette de médecin et de chercheur. Docteur Vibert.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, j'exerce un métier de médecin-chercheur. Qui consiste à, d'une part, voir des patients dans une activité médicale qui, pour moi, consiste à voir des patients atteints de cancer, donc à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, dans le département d'innovation thérapeutique et d'essais précoces, où nous voyons notamment tous les essais cliniques de phase 1, c'est-à-dire les nouveaux médicaments anticancéreux qui sont testés pour la première fois chez l'humain. Par ailleurs, j'ai aussi une activité de recherche qui consiste donc à avoir des travaux scientifiques concernant les patients et leur cancer en l'occurrence, et plus particulièrement des travaux impliquant les mathématiques et l'intelligence artificielle pour ma part. Donc voilà, je serais ravi de vous détailler tout ça et comment on peut allier médecine et recherche dans ce cursus et cette carrière.
Professeur Oliven.
Je l'ai eu, je ne l'ai plus, parce qu'en France, malheureusement, le système privé, public est très séparé. Donc moi, j'ai fait une carrière universitaire pendant 20-25 ans à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la recherche clinique dans mon activité quotidienne à l'hôpital, mais aussi un DEA, par exemple. Et puis, j'ai fait une année de recherche aux États-Unis où ça, c'était peut-être de la recherche un peu plus fondamentale. Et puis, il y a une quinzaine d'années, j'ai quitté l'hôpital pour rejoindre le secteur privé. Et là, il y a pratiquement, il y a quelques spécialités où les gens arrivent à concilier la médecine privée et la recherche, mais contrairement à d'autres pays où c'est très organisé, en France c'est compliqué, parce qu'on est happé par la partie clinique, et on n'a pas de temps vraiment à consacrer vraiment à la recherche.
Tous les médecins ne possèdent pas du tout cette double casquette, donc j'aimerais vous demander pourquoi avez-vous choisi de faire de la recherche dans votre parcours ? Docteur Vela.
Donc moi, plus particulièrement, c'était parce que, étant jeune, je m'intéressais beaucoup aux mathématiques. J'avais envie d'avoir une activité de recherche, par ailleurs, contre le cancer en l'occurrence. Donc j'ai suivi un double cursus médecine-sciences, dont on pourra reparler, qui consiste en fait pour des étudiants en médecine à avoir une formation scientifique qui les amène à avoir un master puis un doctorat en sciences. Donc vraiment cette double formation clinique et scientifique qui normalement les amène ensuite à pouvoir exercer un métier de médecin-chercheur. chercheur. C'est clairement pas une voie que tout le monde suit, c'est un très faible nombre d'étudiants, ça rallonge de beaucoup d'années les études. Donc pour moi, c'était vraiment une vocation. J'avais envie de faire de la recherche en plus de voir les patients, ce qui m'a amené donc à intégrer l'école normale supérieure, à faire un master puis une thèse de sciences pendant mon internat. Donc ça fait de longues études. En tout cas, de mon côté, c'était une vocation et c'était tout à fait une très belle formation et ça me permet actuellement de faire ce que j'ai envie de faire. Mais comme disait le professeur Oliven, c'est pas forcément dans toutes les spécialités et dans tous les hôpitaux où on peut concilier médecine et recherche et on va en parler bien sûr.
Vous avez donc une thèse de médecine et une thèse de sciences.
Exactement.
D'accord, et c'est votre cas aussi.
Moi aussi, mais dans un domaine qui était de la recherche clinique. Ce n'était pas une thèse de science, recherche fondamentale, parce que moi, c'est un petit peu différent du docteur Hibert. C'est-à-dire, moi, je suis rentré dans une carrière de médecin et initialement, pas forcément avec l'idée de rester à l'hôpital. Et puis finalement, à partir du moment où j'ai eu envie de rester à l'hôpital, bah, les clés de l'hôpital... Le CHU tel qu'il était déjà il y a une trentaine d'années et encore aujourd'hui, bah pour rester à l'hôpital, la plupart des médecins dans un CHU doivent faire de la recherche, à un plus ou moins haut niveau. Et progressivement, j'ai été dans la génération où on nous a amené à faire de plus en plus de recherche. Donc au début, il n'était pas question de DEA et après on nous a dit bah pour être professeur, il faut faire un DEA, donc j'ai fait un DEA. Après, il n'était pas forcément question d'avoir une thèse de science et tout d'un coup, on l'a rendue obligatoire, donc j'ai fait une thèse de science. Donc, c'est plutôt comme ça. Et puis, la mobilité à l'étranger, bah là, ça m'a intéressé de faire plutôt de la recherche fondamentale parce que d'ailleurs, c'était aux États-Unis, je n'avais pas accès à exercer la médecine aux États-Unis sans diplôme. Donc, voilà comment ça s'est fait. C'était plutôt par un concours de circonstances, même si j'y ai pris goût.
Donc vous diriez que les exigences aujourd'hui pour faire des tests de sciences ont changé par rapport à avant. Il n'y a plus de parcours fléché. Parce qu'aujourd'hui, il y a par exemple la médecine sciences à l'ENS, l'école de l'INSERM Liliane Bettencourt, qui sont des initiatives assez récentes en fait, qui n'existaient pas.
Il y a eu des exigences pour la carrière de professeur agrégé de médecine. Je pense qu'aujourd'hui, la thèse de science, elle est obligatoire.
Exactement.
À mon époque, elle l'est devenue, elle était fortement conseillée. Elle n'était pas obligatoire, mais elle était fortement conseillée. Comme un poste de professeur à l'hôpital, vous êtes en concurrence avec d'autres gens. Bah, si vous n'avez pas de thèse de science et que les autres l'ont, bah, vous n'êtes pas classé. Donc aujourd'hui, c'est différent puisque tous les gens qui veulent avoir le titre de professeur agrégé des universités doit avoir une thèse de science.
Pour rebondir, c'était effectivement plus compliqué et moins bien organisé, donc il y avait plus de manières effectivement d'arriver sur la recherche en faisant de la clinique. C'est de ça justement que sont nés les doubles cursus, de ce constat qu'en fait c'était compliqué et qu'il n'y avait pas de voie forcément bien tracée pour les jeunes médecins qui voulaient faire de la recherche, de justement pouvoir faire en parallèle de leurs études médicales de façon sereine un cursus scientifique. Et donc il y a historiquement d'abord eu l'école de l'INSERM que vous avez cité, qui réunit des étudiants de toute la France et qui leur permet donc d'avoir des cours, notamment dès la deuxième année de médecine, de sciences fondamentales, et ensuite les accompagne jusqu'à un master 2 où ils s'arrêtent un an. Puis ensuite, il y a deux voies qui sont en fait les deux voies communes à tous les doubles cursus. Soit faire une thèse de science tout de suite après le master 2, soit revenir faire l'externat, l'internat et ensuite faire, s'ils le veulent, une thèse de science, ce qui amène de toute façon à la fin à avoir une thèse de science de façon assez précoce, avant le clinica, et donc avantage par rapport aux autres qui ne font pas de double cursus et qui doivent faire une thèse de science après leur clinica. Donc il y a l'école de l'INSERM, il y a l'ENS, l'école normale supérieure, et il y a maintenant aussi beaucoup de double cursus dans certaines facultés, Paris, Strasbourg, Lyon, donc de plus en plus de villes et de facultés se mettent à cette formation de double cursus.
D'accord. Donc, une fois qu'on est formé et qu'on a sa thèse de médecine, de sciences, j'aimerais comprendre un peu mieux comment elle s'organise pour vous au quotidien. Vous avez, par exemple, cette dénomination de PUPH. Est-ce que vous diriez que c'est une juxtaposition des deux métiers ? Votre journée est séparée en deux, votre semaine est séparée en deux et géographiquement, votre activité est séparée en deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'organise la vie d'un médecin-chercheur ?
Ben, ça, je pense que ça dépend justement, on est un très bon exemple tous les deux, des deux possibilités. Vous avez le docteur Hibert, il aime beaucoup la recherche, il a envie de faire de la recherche et il fait aussi de la clinique. Et le docteur Oliven, il était plutôt intéressé par la clinique et il faisait de la recherche. Donc je pense que ça se passe exactement comme ça, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez le titre de PUPH, que vous avez accumulé toutes les exigences de ce titre, qui sont les publications scientifiques, le DEA, la thèse en médecine, enfin tout ce qui, ça a peut-être changé maintenant, mais moi c'était mon cas. Après, une fois que vous avez le titre, c'est un titre, vous pouvez très bien ne plus jamais faire de recherche, si c'est votre souhait. Vous pouvez en faire un petit peu quand vous êtes, ça a été mon cas, c'est-à-dire d'organiser dans mon service, qui est, enfin j'étais numéro 2, mais disons c'est moi qui dirigeais l'unité de procréation médicalement assistée, j'avais à cœur qu'il y ait de la recherche clinique, que notre activité fasse l'objet de protocoles, on compare des traitements, éventuellement on peut mettre en application tout d'un coup ce qu'on voit dans un congrès qui est de la recherche fondamentale et on se dit est-ce que ça va marcher, etc. Moi j'ai aussi été à l'initiative de la mise en place d'un nouveau traitement dans mon domaine, qui était un traitement très important. Donc, on était un des trois services au monde qui l'utilisait. Donc, les protocoles, comment l'utiliser, comment le donner, comment, etc., etc. Et puis, vous avez des médecins qui sont à la fois médecins, mais qui ont une activité de recherche intense, qui peuvent être directeurs même d'une unité de recherche, et qui vont consacrer un temps, je dirais, plus important à l'activité de recherche. C'est, je pense, que ce que fait mon collègue.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il y a plusieurs choses qu'on peut faire en tant que médecin-chercheur. Il y a tous les extrêmes sur un continuum. On a des médecins qui, effectivement, ont une thèse de science à un moment, mais qui, finalement, s'orientent plus vers une activité clinique et font de temps en temps de la recherche si l'opportunité se présente ou s'ils en ont l'envie. Il y a d'autres médecins qui vont carrément arrêter la clinique pour se consacrer à la recherche. Par exemple, le docteur Olivier Delattre, qui était mon directeur de thèse à l'Institut Curie, a totalement arrêté la clinique pour être chercheur et se consacrer donc à ses activités de recherche. Et il y a entre ces deux extrêmes des gens comme moi, je pense, qui essayent d'allier la clinique et la recherche parce que voilà, moi j'ai envie de voir des patients, j'aime voir des patients, je pense que c'est ça aussi qui me donne mes idées pour ma recherche et par ailleurs j'ai bien sûr envie de continuer mes activités de recherche pour pouvoir faire avancer la science et les soins pour les patients. C'est pas extrêmement facile en France de faire les deux. Moi, par exemple, j'ai une bourse spécifique de l'INSERM et de la Fondation Liliane Bettencourt pour faire un clinica mi-temps recherche. Mais voilà, c'est pas tout le monde, malheureusement, qui peut faire un clinica avec du temps recherche protégé. You cop got mags, that be dippy dippy dope, but the whole damn nation got the same. Honey, only fly to the B, that's a pope, not the president with government lame. Put me on a slow moving parliamentary hacking bandwagon, you can put me little ass in the grave. Every time you want it, I'll be live, bring a date. I mean, computer when it's over, press save. So you can be the president. I'd rather be the pope. I say you can be the president. I'd rather be the Pope. I'd rather be. Yeah, you can be the side effect. I'd rather be the dope. The Pope. Solo and tell me not to kick it. I love the taste of unpredictable licks. A loop is a loop is a loop. A loop is a loop is a loop. A loop is a loop is a loop. A loop is a loop is a loop is a loop. Your car got mags, zippy dippy dippy dope, but the whole damn nation got the same. Honey, only flock to the bee that's a pope, not the president with government lame.
Put me on a stone moving parliamentary hacking bandwagon. You can put me little ass in the grave. Every time you want it, I'll be live, bring a date. I mean computer when it's over, press save. So you can be the president. I'd rather be the Pope.
D'écouter Prince Pop.
Vous êtes dans Fréquence Recherche sur Radio Campus Paris.
Avant de poursuivre la discussion, j'aimerais savoir, professeur Oliven, pourquoi vous avez choisi ce morceau.
Alors j'aime beaucoup Prince, pas tout raconter de ma vie, mais dans une autre vie j'ai été marié à une femme qui était actrice et qui a joué avec Prince. J'ai rencontré Prince, mais par ailleurs j'aime beaucoup la musique, j'ai hésité, et j'aime beaucoup Prince, James Brown, j'ai hésité un peu entre les deux, voilà. Mais Prince est un génie absolu.
Je crois que toute l'équipe acquiesce. Donc pour cette deuxième partie de cette discussion, j'aimerais qu'on définisse un peu plus précisément ce qu'on appelle depuis le début recherche médicale. En particulier, professeur Oliven, je crois que vous avez eu une activité importante, comme vous le disiez, de recherche plutôt clinique au cours de votre carrière en gynécologie obstétrique. Vous avez parlé de ce médicament, par exemple, en première partie.
Alors, on n'est pas, en France, à l'époque en tout cas, peut-être c'est mieux organisé maintenant, on n'était pas très organisé, contrairement à d'autres centres étrangers. Moi, j'ai côtoyé, je ne sais pas, des Hollandais et des Belges qui avaient... Je me souviens, par exemple, d'un service de médecine belge qui était très connu dans mon domaine. Et quand un médecin incluait une femme dans un protocole de traitement, il y avait sur une feuille la liste de tous les protocoles de recherche du centre. Et si la patiente n'était pas inclue dans un de ces protocoles, le médecin devait faire un petit papier pour expliquer pourquoi il n'avait pas pu l'inclure dans ce protocole. Et ce centre médical publiait, je ne sais pas, 50 ou 100 papiers par an dans cette activité, alors que... ils n'avaient pas vraiment une équipe de recherche. Nous, c'était plus artisanal. On n'avait pas cette organisation. D'abord, on était moins nombreux en nombre. Donc, c'était quand même difficile de concilier l'activité clinique, l'activité de recherche et n'oublions pas l'activité d'enseignement puisque quand même, dans un CHU, on doit donner des cours aux étudiants. Donc, on essayait de faire, avec les moyens du bord, de la recherche. Donc là, par exemple... il se trouve que je travaillais avec le professeur Friedman, qui était un monsieur très connu dans le domaine de la reproduction, et qu'un laboratoire qui avait un nouveau médicament a sollicité pour que son service fasse partie des premiers services. Il y avait un service en Allemagne, il y avait notre service, et il y avait ensuite un service aux États-Unis, qui ont été les premiers à utiliser ce produit, un nouveau produit qui servait dans les traitements de stimulation de l'ovaire. Donc il a fallu, avec, évidemment, accompagné par le labo, il faut être... On définissait ensemble, on avait des réunions pour définir le protocole. Après, il fallait inclure des patientes. Au début, des patientes traitées, ensuite des patientes comparées à d'autres. Tout un ensemble de projets de recherche qui servaient à montrer que ce produit marchait aussi bien, si ce n'est mieux, que le produit qui existait, qui était très différent. Et basé sur ces études que nous avons faites, eh bien, aujourd'hui, ce médicament est le médicament utilisé dans 90% des cycles de fécondation in vitro. Mais au début, il a fallu le démontrer, aller dans les congrès, faire des présentations, expliquer les protocoles, trouver les variations, le nombre d'injections, quand commencer, quand finir, etc. Donc voilà, c'était très pratique, c'est de la recherche, mais extrêmement pratique, puisque c'est dans le cadre de l'application médicale.
Donc si je comprends bien, c'est vraiment une recherche qui vise...
appliquer.
Okay, que vous qualifieriez d'appliqué, en fait.
Complètement appliqué, donc... puisque les patients font partie du protocole, mais elles sont dans un soin thérapeutique. C'est-à-dire, on avait déjà, le labo avait déjà montré que le produit était efficace. Ce n'est pas nous qui avons fait cette passe, les phases 1 et 2.
Cette recherche clinique, c'est l'activité principale, on va dire, de la plupart des médecins qui font de la recherche. Donc, elle implique les patients. Moi, personnellement, je fais aussi beaucoup de recherche clinique, vu que je travaille dans un département, en fait, qui fait des essais cliniques de phase 1. Donc, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on administre des médicaments anticancéreux chez les patients. Donc, encore une fois, c'est très contrôlé. Il y a des protocoles qui régissent toutes les conditions d'administration. Il faut qu'on note tout. Les effets secondaires, l'activité ou pas des médicaments. Donc tout ça est très bien codifié, réglementé, parce que le sujet d'étude, c'est le patient et on ne peut pas se permettre d'erreur avec le patient. Cette activité de recherche clinique, elle est extrêmement importante justement pour ensuite développer les médicaments et pouvoir les passer en phase 2, puis phase 3 et enfin sur le marché pour les patients.
C'est vraiment une évaluation d'efficacité et de tolérance de nouveaux
exactement.
Traitements.
Exactement. Donc, c'est comment on passe d'un médicament qui a été développé dans des cellules, des modèles de souris, d'animaux, chez l'humain. Et donc, bien sûr, l'humain, c'est différent d'une souris ou d'un primate. Et il faut observer ce qui se passe à certaines doses. On monte progressivement les doses et on voit, bien sûr, s'il y a une activité ou pas du médicament. Et tout ça doit être tout à fait contrôlé parce qu'on ne peut pas prévoir tous les effets secondaires qui pourraient arriver à partir d'un modèle de souris, par exemple.
Quelle est la différence entre une recherche fondamentale médicale, donc en biologie, mais qui vise aussi à expliquer et à comprendre les maladies, et cette recherche clinique? Est-ce qu'elle est faite par les mêmes personnes, aussi par des médecins-chercheurs, ou seulement des chercheurs? Docteur Vibar.
Effectivement, c'est une distinction importante. On vous a parlé de la recherche clinique qui est en fait probablement le dernier échelon dans, par exemple, un développement d'un médicament. La recherche fondamentale va vraiment, comme son nom l'indique, s'intéresser au fondement, au mécanisme de ce qui se passe, par exemple, dans mon domaine au niveau de la cellule cancéreuse, comment elle se développe, comment on va essayer de la contrer avec un traitement. Donc, il s'agit de développer un traitement qui, par exemple, va cibler une protéine impliquée dans le développement du cancer. Il faut tester cette drogue au niveau de cellules. Donc tout ça, cette partie mécanistique où en fait on essaie de voir quelles sont les cibles dans une cellule cancéreuse pour un traitement, comment on utilise des modèles cellulaires d'animaux, tout ça c'est ce qu'on appelle plutôt la recherche fondamentale. Du coup, c'est vraiment la compréhension du mécanisme et de comment le traitement va agir avant de passer chez l'humain en recherche clinique. Et donc il y a un terme qu'on utilise, la recherche translationnelle, dont on pourra reparler, qui est censé faire ce passage entre le fondamental et la clinique.
Aux États-Unis, des travaux de recherche entre guillemets fondamentale, j'ai fait des expériences chez la souris. Donc l'idée, c'était de corriger des embryons de souris. Ça n'avait jamais été testé chez l'homme. Donc faire ces embryons, appliquer une méthode de correction en se disant que peut-être un jour, on pourrait l'appliquer aux embryons humains. Et une fois qu'on a montré que ça marchait bien, dans le service où moi j'ai fait cette recherche, finalement, ils ont, aux États-Unis, où c'est un petit peu plus facile de faire des projets de recherche sur l'embryon qu'en France, on a pu appliquer aux embryons humains la méthodologie qu'on avait testée sur les embryons de souris. C'est typiquement un exemple de recherche fondamentale qui a ensuite une application.
Donc peut-être un bel exemple de recherche translationnelle, docteur Vivard. Est-ce que exactement. Vous pourriez nous expliquer ce qu'est la recherche translationnelle
Alors pour revenir, je pense à une question que vous m'aviez posée à laquelle je n'ai pas totalement répondu. Donc la recherche fondamentale et la recherche clinique sont effectivement très différentes. On n'est pas forcément médecin-chercheur quand on fait de la recherche fondamentale. Justement, ça peut être de la biologie cellulaire, de la chimie, de la biochimie. Donc des gens qui ne sont pas médecins qui vont faire cette recherche fondamentale. Et effectivement, là, c'est un bel exemple parce que les expériences qui ont été faites sur un modèle cellulaire ou dans les souris qui ont été prouvées comme efficaces dans ces modèles ont ensuite été transposées chez l'humain et ensuite démontrées donc comme efficaces chez l'humain. Donc ça, c'est un modèle de succès. Bien sûr, toutes les recherches n'aboutissent pas forcément, malheureusement, mais c'est justement le travail des médecins-chercheurs de faire ce pont aussi entre les chercheurs fondamentaux qui ne sont pas forcément médecins, qui n'ont pas forcément la connaissance de la question clinique, de l'indication clinique. C'est aux médecins, justement, de dialoguer avec ces gens qui font la recherche fondamentale pour pouvoir passer en clinique. Et donc la recherche translationnelle, c'est un terme, je dirais, assez fourre-tout finalement, où on peut mettre des activités de recherche qui pourraient être fondamentales mais qui en fait ont une visée, en tout cas clinique. Donc, tant que les médecins-chercheurs sont impliqués et orientent ces recherches, qu'elles soient fondamentales ou un peu moins fondamentales, j'appellerais cela, la plupart des gens appelleraient cela, la recherche translationnelle.
Quelles sont les échelles de temps? Qui en sont les acteurs?
C'est extrêmement variable. Vous avez des tas de recherches fondamentales qui n'aboutiront jamais, ou de projets de recherche qui semblent intéressants et qui s'avèrent finalement soit décevants, soit inutiles, soit... Donc c'est... Voilà, c'est comme le dit très bien le docteur Vibert, c'est à un moment donné des gens qui font de la... Ça peut être d'ailleurs des initiatives de médecins qui sollicitent des équipes fondamentales en disant... Voilà le problème que j'ai, est-ce qu'on peut rechercher ça et ça? Ou le contraire, des équipes qui ont fait des projets de recherche fondamentaux dont ils pensent qu'il peut y avoir une application chez l'homme et qui peuvent solliciter des équipes médicales. Moi, je me souviens d'un exemple, par exemple, c'était un monsieur qui avait inventé un système assez génial d'analyse des contractions de l'utérus. Et pourquoi il faisait ça? Il n'était pas du tout dans ce domaine, c'était un informaticien. Mais il avait développé, c'est le tout début de l'analyse d'images. Et un jour, il est venu nous voir en disant, je ne sais pas, est-ce que ça vous intéresserait de mettre à profit mon système? Donc nous, on a réfléchi avec lui, on a fait quelques études. Au début, 10 patientes. Et petit à petit, ça a fini par des publications. On a pu montrer, par exemple, que les femmes avaient des contractions de l'utérus qu'elles ne ressentaient pas, même en dehors de l'accouchement. Mais ça, à la base, c'est ce monsieur qui est venu avec son idée saugrenue d'appareil de mesure. Donc, je pense que c'est comme ça dans tous les domaines. Ça peut être à l'initiative de gens qui ont des idées. Et puis, il y a beaucoup de fois où mon histoire de souris, ça n'a finalement pas donné de trucs intéressants dans les embryons humains. Et personne ne fait ça aujourd'hui. Ça a été inutile, en fait.
Donc là, on a eu des beaux exemples de recherche qui est plutôt partie du fondamental pour se diriger vers la clinique. Est-ce que, inversement, vous auriez des exemples qui sont partis de la recherche fondamentale, de la recherche clinique, pardon, et qui ont enrichi la recherche fondamentale, ce qui est a priori moins évident?
Oui, effectivement, je pense qu'il y a un dialogue constant entre la recherche fondamentale, la recherche clinique, ou plus généralement ce qu'on dit dans notre jargon de la paillasse au lit du patient. Bien sûr, on peut passer de la paillasse au lit du patient, comme on l'a dit tout à l'heure. Et inversement, c'est très important, et je pense que là, le médecin-chercheur a toute son importance dans comment, à partir de patients, à partir d'observations cliniques, on arrive à des questions fondamentales qui vont servir donc, à développer de nouvelles méthodes ou de nouveaux traitements. Moi, l'exemple dont je pourrais vous parler, c'était pendant ma thèse de sciences à l'Institut Curie. C'est venu d'un patient qu'on a, ma chef de clinique, le docteur Sarah Watson, a reçu pour un cancer dont en fait on ne connaissait pas l'origine. En tout cas, aucune des méthodes actuelles ne pouvait déterminer l'origine de ce cancer. On ne pouvait pas voir de quel organe il venait. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle les cancers de primitifs inconnus. Bien sûr, c'est très difficile à traiter, comme on ne sait pas d'où ça vient. On donne une chimiothérapie, mais sans vraiment pouvoir l'orienter. Et en fait, à partir de cette observation, j'ai développé un algorithme d'intelligence artificielle qui, sur le séquençage de son transcriptome, donc de la tumeur, pouvait déterminer automatiquement, suite à un entraînement sur des données que déjà disponibles, donc cet algorithme a pu donner un diagnostic de cancer du rein, en l'occurrence, donc nous a permis de traiter ce patient comme un cancer du rein et de, entre guillemets, le guérir. Donc, qui était la preuve qu'en fait, grâce à cette histoire clinique, on est revenu vers la fondamentale, entre guillemets, on a développé un algorithme et qui maintenant sert pour les diagnostics sur le plan national de tous ces patients avec des cancers de primitifs inconnus. Donc c'est vraiment cet exemple de passer du lit du patient à la paillasse, là en l'occurrence à l'ordinateur, puis retour au patient pour avoir quelque chose en clinique.
La médecine, ça a été longtemps des traitements empiriques. Et la recherche permet aussi d'établir le fait que le traitement est efficace. Et je pense que l'exemple que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est ce fameux exemple de la chloroquine, où tout le monde a pris de la chloroquine pensant que c'était un médicament efficace. Je pense qu'il y a encore une ou deux personnes à Marseille qui pensent que c'est un traitement efficace. Mais disons que la recherche a montré que ce traitement n'est pas efficace. Il est même dangereux. Certaines études ont montré qu'il produisait plus de morts que les gens qui n'avaient pas de chloroquine. Donc cette recherche, finalement, qui longtemps n'existait pas dans la médecine, elle a aussi un bienfait fondamental qui est le fait de valider les traitements. C'est-à-dire de s'assurer que... Parce que les médecins, on a toujours tendance, alors ça dépend des spécialités, probablement beaucoup moins dans la cancérologie parce qu'il y a des enjeux, mais par exemple dans mon domaine de la reproduction, les femmes reçoivent des poutres de perlimpinpin, des trucs, quelqu'un a une idée, il va donner ci, il va donner ça, il n'y a pas trop de conséquences. Et finalement, elles reçoivent énormément de traitements dont beaucoup ont été démontrés comme étant parfaitement inutiles. Et ça, c'est grâce à la recherche. La recherche où on étudie très sérieusement le bénéfice du traitement permet de décider de ne plus jamais l'utiliser s'il ne marche pas.
Donc la recherche médicale en général, dans ce cas-là, à la fois clinique, fondamentale et translationnelle, permettent le soin et le diagnostic.
Et le bon soin.
Le bon soin. Pour avancer dans cette partie, j'aimerais que nous abordions une autre problématique, qui est celle de l'objet d'étude humain. Cette problématique est tout à fait nouvelle pour des chercheurs qui ne font pas de recherche clinique ou médicale. Ils peuvent par exemple travailler sur des cellules humaines, mais elles sont souvent si transformées ou trafiquées pour se diviser indéfiniment, incorporer facilement du matériel génétique, qu'elles sont en fait très éloignées de cellules réelles humaines. Traiter des humains comme des données, qu'est-ce que ça peut impliquer ? Pour discuter de cette problématique, j'ai le grand plaisir d'accueillir Célène Forger, coproductrice de l'émission que vous connaissez déjà. Bonjour Célène.
Bonjour Nahama. Bonjour professeur Oliven, bonjour docteur Hubert. Merci pour tous ces échanges passionnants. Et donc aujourd'hui, pour continuer un peu la discussion, j'aimerais venir titiller votre âme de médecin et mettre les deux pieds dans le plat de l'éthique médicale. Finalement, qu'est-ce qui vous distingue, par exemple, professeur Oliven, de Frankenstein ou même de Paolo Macchiarini, si peut-être que vous connaissez, ce chirurgien qui vous veut du bien, comme l'interroge Netflix dans son double documentaire cette année, et qui a été condamné à 2 ans et demi de prison en 2023 pour avoir procédé à de l'expérimentation humaine sans avoir préalablement mené la recherche scientifique nécessaire, provoquant la mort de 7 patients sur 8 tentatives de greffe. Plus encore, qu'est-ce qui vous distingue peut-être, docteur Vibert, du docteur Pasteur, qui expérimente pour la première fois le vaccin de la rage sur un enfant mordu, en cédant aux supplications de sa mère. Le médecin-chercheur fait peur et fascine, car il joue avec le sacré. La mort, la vie, les guérisons miraculeuses, l'administration du poison, l'opération révolutionnaire dont on ne se réveille pas. Et cette peur n'a rien de dépassé. En 2015, la question des essais cliniques et de l'expérimentation sur les humains fait son retour à la une en France. À Rennes, Guillaume Molinet, 49 ans, est participant volontaire d'un essai clinique mené par le laboratoire Bioval, décède suite à la prise du MBIA 10-24-74. Un an plus tard, votre confrère, le professeur Joël Ménard, ancien directeur général de la santé, est interviewé au micro France Inter.
Vous avez travaillé, vous, des deux côtés de la barrière, si je puis dire, puisque à la fois vous avez mené des essais cliniques et à la fois vous les avez testés sur vous-même.
À mon époque et avant la loi Huriez-Sérusque-là, l'habitude fréquente était de prendre les médicaments sur nous-mêmes, d'être le premier sujet normal volontaire de certaines choses.
Qu'est-ce que vous avez testé, vous, par exemple, sur vous ?
Alors, vous allez sourire, j'ai testé la pilule. Estroprogestative, quand elle était à 75 microgrammes.
Forcément, elle a marché, puisque vous ne vous êtes pas retrouvé enceinte.
C'était uniquement pour voir comment variait le système rénine-angiotensine.
Quand on teste, quand on mène des essais cliniques, on a beaucoup d'inquiétudes sur les personnes sur lesquelles on teste.
Énormément, d'autant plus qu'une fois sur un autre type de diurétique, j'ai eu un effet secondaire sur moi-même. Et je sais que, quelles que soient les précautions qu'on prend, il y a des choses imprévisibles qui peuvent survenir. Donc on essaye de bien l'expliquer aux gens. Et nous, notre travail après, quand on fait l'essai lui-même, c'est de prendre absolument toutes les précautions. On a appris à donner des doses qui soient le plus faibles possible par rapport à une protection qui vient de l'animal. On a absolument besoin de cette protection chez l'animal, même si on est extrêmement critiqué de faire comme ça. Mais on a beau dire, l'animal, la souris, le singe, ce n'est jamais complètement l'homme.
Alors, même si je suis tentée, et je ne vais pas vous demander quelle substance étrange vous auriez bien pu vous auto-administrer. Non, on va partir du principe que soit vous êtes trop vieux, soit vous respectez la réglementation. Je ne vais pas non plus vous demander de vous lancer dans une rhétorique sur la nécessité absolue de torturer des êtres sensoriels tout mignons, comme des adorables petites souris, des petits cochons tout roses ou des chimpanzés dont le regard pénétrant ne laisse aucun doute quant à leur éveil et leur conscience. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est votre rapport à l'humain. Car, comme le dit la journaliste Danielle Messager,
à un moment, il faut passer à l'homme.
À un moment, il faut passer à l'homme. On a beaucoup cherché de savoir est-ce qu'on pourrait développer un médicament sans passer chez l'homme. Eh bien, on ne peut pas. Le point qui est très important, c'est qu'on est obligé de le faire. Alors, quand je dis « on », qui est « on », c'est notre société. parce qu'on n'aurait pas les antibiotiques, on n'aurait pas les antihypertenseurs, on n'aurait pas les antiviraux si on n'avait pas fait des choses comme ça. Et la France a quand même été dans les pays qui sont bien réglementés. Si jamais nous, on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? On dira, bon, on va aller dans d'autres pays, en Chine, au Bangladesh, en Inde, moi, je ne sais pas. Alors, moralement, est-ce qu'il vaut mieux que ça soit fait dans un pays où c'est totalement bien fait, plutôt que d'aller dans des pays où, au début tout au moins, ça ne sera pas aussi bien fait?
Alors, moralement, est-ce qu'en France, tout est totalement bien fait? Comment est-ce que vous, en tant que médecin-chercheur, vous arrivez à concilier entre votre sensibilité humaine et votre sensibilité de chercheur qui vous demande de rapporter des preuves scientifiques irréfutables?
Moi, je vais vous raconter une anecdote, un peu dramatique, mais quand même, je vais vous la raconter. Il y a de très nombreuses années, il y a eu une publication extraordinaire dans un journal anglais de très haute volée, qui s'appelle le New England Journal of Medicine, que tout le monde connaît, d'un médecin qui avait fait une prouesse extraordinaire. En fait, chez la femme, de temps en temps, la grossesse ne se met pas dans l'utérus, mais elle se met dans la trompe. On appelle ça une grossesse extra-utérine. Évidemment, pour beaucoup de femmes, ça a toujours été la question, mais cette grossesse extra-utérine, on ne veut pas la remettre dans mon utérus. Parce que c'est vrai que c'est assez incompréhensible, puisqu'elle est... On peut voir l'embryon, parfois il y a même eu des naissances d'ailleurs, dans des cas extrêmement rares. Et cette équipe anglaise a présenté une étude où elle a pris des grossesses extra-utérines qu'elle a remis dans l'utérus. Et sur une première étude de 8 cas ou de 9 cas, elle a prétendu que les grossesses avaient évolué à terme. Et moi, sous la commande du chirurgien de l'équipe de Clamart, nous avons fait 2 cas où nous avons essayé de remettre dans l'utérus cette grossesse extra-utérine. Ça n'a pas marché, on a arrêté. Moi, j'y croyais pas d'ailleurs. Je discutais avec lui, je disais, c'est pas possible. Et finalement, on s'est aperçu que c'était un total fake. Ils ont été condamnés, d'ailleurs, ils ont été démis de leurs fonctions. Le chef de service, je crois même, a été viré. Donc là, il y a une fausse publication. Bon, il y en a pas y a des centaines, mais ça peut arriver. Donc ça peut avoir des conséquences tout à fait importante. Maintenant, je crois que ce qui est important, c'est que dans une activité de recherche, par exemple dans le domaine de l'obstétrique, il y a beaucoup de recherches où est en jeu la vie du bébé, ben voilà, il faut avoir une éthique de la recherche. L'éthique de la recherche, c'est de savoir se limiter à quelque chose qui est bienfaisant pour la patiente. Si on commence à avoir... espèce de folie où on va être prêt à tout pour avoir un scoop, ben évidemment, il peut y avoir des dérives très graves. Là, vous avez cité un accident de la recherche. Je pense que le docteur Huber connaît mieux ça que moi. Mais par définition, dans les phases initiales de développement d'un produit, c'est bien pour ça qu'on les teste et qu'il peut y avoir des accidents. Un accident mortel, évidemment, c'est dramatique, mais j'imagine que ça fait partie de la recherche. Donc c'est justement les comités. Vous avez quand même aujourd'hui des comités tout à fait organisés d'encadrement de la recherche qui permettent justement de s'assurer que cette recherche, elle est éthique, elle respecte le patient. C'est très important, bien sûr, c'est fondamental.
Et justement, vous pensez que cette réglementation, parce que finalement, c'est ça que vous évoquez avec l'idée d'un comité, d'un suivi, est-ce que c'est quelque chose qui vous protège, qui vous accompagne, ou est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, vous muselle? Et quelle est la limite, en fait? Où est-ce qu'à quel moment on peut se retrouver peut-être frustré, et en même temps, à quel point c'est nécessaire d'avoir tout un cadre juridique pour permettre la recherche clinique?
Bah, moi, je pense que c'est tout à fait nécessaire et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le professeur Oliven. Moi, du côté de la cancérologie, c'est extrêmement bien codifié, effectivement, par rapport aux essais de phase 1, notamment, où c'est la première fois qu'on administre le médicament chez l'humain et il y a des risques inhérents à cette procédure. Il peut y avoir des décès, bien sûr, toxiques, même si c'est très rare. Et moi, personnellement, dans mon activité, donc il y a des comités de protection des personnes, des comités d'éthique qui valident tous les protocoles. Et avant d'inclure un patient dans un protocole, je passe au moins une heure avec le patient pour lui expliquer le protocole, pourquoi on lui propose, quels sont les éventuels effets secondaires qu'on a déjà vus chez d'autres patients. Et il y a toute une procédure de signature. Tout ça passe par des consentements écrits. Il faut bien sûr qu'il y ait eu un temps d'information, que le patient puisse poser toutes les questions qu'il a envie de poser. Il y a aussi toute une procédure par rapport même aux biopsies. Donc les biopsies, c'est des prélèvements, notamment au niveau de leur cancer. Et pour nous, c'est tout à fait important pour aller étudier ce qui se passe au niveau du cancer avant le traitement, pendant le traitement. C'est des gestes qui peuvent être invasifs avec des risques de saignement, de douleur. Et donc pour tous ces gestes-là, il y a un temps obligatoire d'information et une signature d'un consentement écrit. Donc normalement, en France et dans la plupart des pays du monde, tout est fait de la sorte. Donc effectivement, certains médecins peuvent, je pense, passer beaucoup de temps sur ces procédures qui peuvent paraître administratives, mais c'est effectivement essentiel pour permettre à ce que la recherche ne déborde pas et que le patient soit bien au clair sur ce qui peut se passer et soit bien d'accord sur ce qui va se passer dans le cadre de la recherche.
Et finalement, ces interactions prolongées que vous avez avec ces patients, comment est-ce que vous la ressentez ? C'est-à-dire, quel genre de distance vous arrivez à mettre avec un patient qui va à la fois être une donnée expérimentale pour vous, qui va rentrer dans votre banque de données, alimenter votre recherche, montrer des preuves ou au contraire, vous montrer que vous êtes dans la mauvaise direction, et en même temps, vous avez un humain devant vous. Alors, comment est-ce que vous arrivez à choisir la bonne distance ?
Bien sûr, c'est pas simple. En fait, on a une double casquette devant ce patient. On est chercheur, donc on a envie de faire avancer la science en faisant des bonnes observations, idéalement en ayant toutes les biopsies possibles, en administrant tout le schéma comme prévu. Et inversement, on est médecin et avant tout, c'est le patient qui doit passer d'abord. Et je pense que tous mes collègues seront d'accord avec moi. On est avant tout médecin avant d'être chercheur. Et bien sûr, on a un protocole à appliquer. Bien sûr, on aimerait faire toutes les biopsies possibles pour la recherche. Mais en fait, dans notre pratique, et je pense que tous mes collègues font pareil, on va faire avant tout passer l'intérêt du patient devant tout. S'il faut annuler une biopsie, s'il faut annuler un traitement, on le fera bien sûr dans les limites de ce qui est autorisé par le protocole. Mais je ne vois pas forcément ça comme une contrainte, mais plutôt même comme une sécurité, parce que moi-même, personnellement, ça peut paraître angoissant de faire de la recherche sur un sujet humain qui a ses souffrances, ses proches, et ce qu'on lui a mis, ce n'est pas forcément sans risque, loin de là. Donc je vois plutôt ça comme une sécurité. Et prendre ce temps-là avec lui, ça nous permet justement d'avancer sereinement dans quelque chose qui est inconnu par définition.
Et avant de continuer cette discussion, je vous propose une nouvelle pause musicale, vous l'aurez compris, sous le choix du docteur Viber. Restez avec nous sur Radio Campus Paris 93.9 FM, on se retrouve juste après.
C'était Secret Love de Giovanni Alini.
Vous êtes toujours dans Fréquence Recherche sur Radio Campus Paris. Avant de commencer la dernière partie de cette émission, même question, docteur Vibert, comment avez-vous choisi ce morceau ?
Alors j'étais un peu en manque d'inspiration quand on m'a posé cette question, donc j'ai posé la question à ma collègue de bureau qui vient d'Italie et donc qui m'a fait écouter cette très belle musique au piano italienne.
Vous écoutez Fréquence Recherche en direct sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Nous sommes toujours avec le professeur Oliven et le docteur Vibert pour parler de recherche et médecine. Nous avons décrypté ensemble jusqu'à présent ce qu'est la recherche médicale et la façon dont se conjugue une activité de praticien, une activité de recherche, qu'elle soit clinique, fondamentale ou translationnelle. Docteur Vibert, est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont fonctionne le financement en recherche fondamentale médicale et comment sont financés les essais cliniques ?
Alors oui, il y a effectivement plusieurs réponses, vous l'avez déjà dit, donc je peux commencer par le plus simple, on va dire les essais cliniques. La plupart des essais cliniques, comme vous en doutez, vont être financés en grande partie par l'industrie, donc qui a développé un médicament, soit des biotechnologies, soit des grandes industries pharmaceutiques, donc qui ont à cœur de mettre leurs médicaments sur le marché, et donc de démontrer l'activité de leurs médicaments. Donc il y a vraiment tout ce financement très important industriel. Bien sûr, il y a aussi des essais cliniques qui vont être dits académiques, c'est-à-dire initiés par des chercheurs, par exemple, ou des médecins-chercheurs non industriels. Dans ce cas-là, bon, c'est des financements qui, du coup, vont être plutôt institutionnels. Par exemple, je travaille à Gustave Roussy, donc c'est des centres de lutte contre le cancer. Il y en a plusieurs en France et des institutions qui ont des financements, des fonds qui viennent en grande partie d'ailleurs de dons de patients. Donc il y a toute cette partie qui va être financée par les dons de patients. Et puis ensuite, il y a les financements bien sûr gouvernementaux, en tout cas de l'État, avec des appels à projets qui sont faits régulièrement pour que les chercheurs, les médecins-chercheurs puissent soumettre des projets qui ensuite sont étudiés et sélectionnés par les instances pour être financés. Donc il y a toutes ces sources de financement qui sont disponibles pour la recherche clinique fondamentale et translationnelle.
J'ai rien à ajouter. Publication, ben, la plupart du temps, c'est des revues scientifiques. Bon, il y a des congrès où on peut présenter ses recherches en avant-première sous forme de communication orale ou ce qu'on appelle des posters. Donc avec en général comité de sélection. Puis l'étape suivante, une fois qu'on a fait ça, c'est de faire un papier scientifique dans des revues de plus ou moins grande importance en fonction de ce qu'on appelle l'impact factor, c'est-à-dire la façon dont un journal va être lu, par combien de gens, quelle va être son influence. Et plus l'impact factor du journal est grand, qui est en fait sa qualité, on va dire, d'une manière assez mathématique, ben plus le comité de lecture va être exigeant et plus ben ça va être difficile de faire passer un papier. Sachant que vous avez des revues qui sont plus destinées à des papiers fondamentaux dans lesquels vous n'allez pas pouvoir passer une étude clinique simple parce que ce n'est pas le sujet du journal. Et puis, à contrario, vous avez des journaux qui ont plutôt tendance à publier de la recherche clinique, qui vont accepter éventuellement des articles fondamentaux, mais ce n'est pas le cœur du journal. Donc c'est un peu comme ça que ça se goupille à peu près, je pense.
On a observé en recherche non médicale scientifique un soutien privilégié aux projets, aux publications qui ont une applicabilité à court terme, notamment en recherche fondamentale scientifique. En somme, on publie plus et plus haut sur des thèmes à la mode. Pensez-vous que la même dynamique est à l'œuvre en recherche médicale clinique ou de toute façon, comme il s'agit de la santé, du soin et qu'il y a des intérêts, tout est applicable et tout est financé, sans priorisation des sujets de recherche ?
Non, bien sûr, c'est évident qu'il y a malheureusement, heureusement, des priorisations, des sujets entre guillemets à la mode. Par exemple, là, moi je travaille sur un sujet à la mode, heureusement pour moi, l'intelligence artificielle, qui est un peu un terme un peu fourre-tout, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de financement sur ces sujets-là. Et inversement, je vois beaucoup de patients, et ça m'intéresse beaucoup, tout ce qui est cancer rare, notamment les sarcomes, qui sont les cancers des os et des tissus mous. Et en fait, typiquement, les cancers rares, on a beaucoup moins de financement que pour les cancers fréquents, comme le sein, le côlon, et inversement. justement aussi par rapport à d'autres spécialités, la cancérologie, je ne vais pas dire qu'on est les malchanceux, on a clairement beaucoup d'avantages par rapport à des spécialités médicales qui ont moins de financement parce que le cancer reste une maladie voilà, que tout le monde connaît, que tout le monde a envie de guérir. Donc oui, il y a des priorisations et c'est plus compliqué d'avoir des financements sur des sujets plus rares, sur des thèmes qui sont moins à la mode, entre guillemets.
Et concernant votre spécialité
Les grandes revues de type, je ne sais pas, Lancet, New England, publient par exemple très très peu d'articles dans le domaine de la procréation médicalement assistée. Pourquoi ? Parce que ça concerne quand même un tout petit groupe de chercheurs, enfin de médecins. Et du coup, de temps en temps, il y a des gens qui ont justement réussi à passer des papiers dans le New England ou dans le Lancet. Alors à chaque fois, tout le monde se dit « Ah, il doit avoir un copain là-dedans » ou je ne sais pas quoi. Parce qu'on se demande qu'est-ce qui fait qu'il a été accepté. En pratique, mon observation, c'est que c'est souvent, on peut dans le domaine de la fécondation in vitro publier un papier très général, et je pense que la revue peut à un moment donné se dire, ça a un intérêt pour tout le monde finalement, parce qu'un médecin, en théorie, même si aujourd'hui je pense que c'est très difficile, il devrait garder un petit peu de connaissances dans tous les domaines. Donc je ne sais pas, je ne voudrais pas trouver un exemple, mais j'imagine qu'une pathologie ultra diffusée, je dis n'importe quoi, par exemple la ménopause, ça peut intéresser à la fois le gynécologue, mais le cardiologue, mais le rhumatologue. Donc c'est un problème tout à fait général. Et on peut très bien imaginer qu'une belle étude sur la ménopause puisse passer dans le Lancet parce qu'elle ne va pas concerner que le petit groupe des gynécologues si l'étude est de bonne qualité.
Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme de mise en danger de la recherche fondamentale, notamment par le fait que désormais des médecins-chercheurs et des chercheurs se retrouvent à candidater aux mêmes bourses et aux mêmes appels à projets et à financement avec des projets qui ont peut-être une applicabilité moins certaine ?
Oui, de toute façon, je pense qu'il y a toujours, mise en danger, c'est pas forcément le terme exact, mais avec des financements qui sont limités, c'est normal, et des idées sans limite, des projets qu'on voudrait mener, c'est clair qu'il y a des choses qu'on peut pas faire, des choses qui veulent être faites par plusieurs personnes et qui vont être faites par une seule équipe, par manque de financement. Et oui, par contre, c'est clair que sur les sujets qui peuvent nous tenir à cœur, nous en tant que praticiens, on est parfois limité parce que on n'a pas l'appel à projet correspondant, on n'a pas l'industriel qui veut s'impliquer dans une niche de patients qui sont pas en grand nombre. Donc oui, on peut parler de mise en danger, en tout cas pour ces thèmes-là qui sont pas en vue ou pour lesquels il n'y a pas forcément beaucoup de financement prévu.
J'aimerais, pour conclure cette émission, vous lire un extrait d'une tribune publiée par un chercheur, Bruno Canard, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des coronavirus dans Le Monde en février 2020. Je suis Bruno Canard, directeur de recherche CNRS à Aix-Marseille. En 2002, notre jeune équipe travaillait sur la dengue, ce qui m'a valu d'être invité à une conférence internationale où il était question des coronavirus que je ne connaissais pas. C'est à ce moment-là, en 2003, qu'a émergé l'épidémie de SRAS et que l'Union européenne a lancé des grands programmes de recherche pour essayer de ne pas être pris au dépourvu en cas d'émergence. La démarche est très simple. Comment anticiper le comportement d'un virus que l'on ne connaît pas ? Eh bien, simplement en étudiant l'ensemble des virus connus pour disposer de connaissances transposables aux nouveaux virus, notamment sur leur mode de réplication. Cette recherche est incertaine, les résultats non planifiables et elle prend beaucoup de temps, d'énergie et de patience. C'est une recherche fondamentale patiemment validée sur des programmes de long terme qui peuvent éventuellement avoir des débouchés thérapeutiques. Elle est aussi indépendante, c'est le meilleur vaccin contre un scandale Mediator bis. Dans mon équipe, nous avons participé à des réseaux collaboratifs européens, ce qui nous a conduit à trouver des résultats dès 2004. Mais en recherche virale, en Europe comme en France, la tendance est plutôt à mettre le paquet en cas d'épidémie et ensuite on oublie. Dès 2006, l'intérêt des politiques pour le SARS-CoV avait disparu. On ignorait s'il allait revenir. L'Europe s'est désengagée de ses grands projets d'anticipation au nom de la satisfaction du contribuable. Désormais, quand un virus émerge, on demande aux chercheurs de se mobiliser en urgence et de trouver une solution pour le lendemain. Avec des collègues belges et hollandais, nous avions envoyé il y a 5 ans 2 lettres d'intention à la Commission européenne pour dire qu'il fallait anticiper. Entre ces 2 courriers, Zika est apparue. La science ne marche pas dans l'urgence et la réponse immédiate. Avec mon équipe, nous avons continué à travailler sur les coronavirus, avec des financements maigres, dans des conditions de travail que l'on a vu peu à peu se dégrader. Quand il m'arrivait de me plaindre, on m'a souvent rétorqué « Oui, mais vous, les chercheurs et chercheuses, Ce que vous faites est utile pour la société et vous êtes passionné. Nous approchons déjà de la fin de cette émission. Pour finir, notre traditionnelle question de la fin. Si vous n'aviez pas choisi cette carrière de médecin-chercheur, comment occuperiez-vous vos journées aujourd'hui ? Professeur Oliven ?
J'aurais bien aimé faire de la cuisine.
Docteur Viver ?
Eh ben moi, j'aurais bien aimé faire de la philosophie.
Et pour terminer, un grand merci à Lucille et Eléa à la technique, à Sarah Hébert pour la préparation de cette émission, à Célène Forger pour la préparation et la co-animation de cet épisode, et surtout à nos deux invités, professeur François Oliven et docteur Julien Vibert, pour leur temps et leur partage. Vous pourrez retrouver cet épisode sur le site Radio Campus Paris, nous retrouver sur Instagram @fréquencerecherche.radio et sur Spotify et Apple Podcasts. Et on se retrouve dans 4 semaines à 20h sur Radio Campus Paris.